Et maintenant, votre émission La Voix du Chien à trois pattes pour découvrir les jazz d'aujourd'hui. Aimez-vous le jazz?
Oh, bien sûr, oui.
Non, bien sûr que non.
Oui, j'aime certains jazz.
Des fois.
J'adore le jazz, je suis là pour ça.
Ouais, c'est pour ça que je suis là.
Eh bien, bonsoir à toutes et à tous. Vous êtes bien sur Calade 100.9. Soyez les bienvenus dans votre émission La Voix du Chien à trois pattes. Et ce soir, je suis toujours avec Dédé aux manettes.
Bonsoir,
bonsoir Dédé.
Bonsoir tout le monde.
Avec Philippe. Bonsoir Philippe.
Bonsoir tout le monde.
Et également avec Christophe, présent avec nous. Apparemment bien remis de cette étape culinaire, Christophe.
Oh oui, bonsoir à toutes et à tous. Effectivement, une belle petite balade culinaire le week-end dernier. De la mission, enfin oui, le jeudi de l'émission. Pardon.
Ah, bon, tu nous rassures.
Mais ça a duré jusqu'au week-end.
Juste pour le situer, notre animateur, c'est Richard. Parce qu'on ne dit pas son prénom, il faut bien qu'on donne son prénom.
Ah bah oui, dites-moi bonsoir les gars.
Bonsoir Richard.
Merci. Alors ce soir, nous allons parler des big bands en deux émissions.
Boum.
La première depuis leur création vers 1930.
Tout à fait.
Avec leur évolution dans le temps jusque dans les années 60, et la deuxième, donc, des années 60 à nos jours. Donc, on va commencer par le début, si tu permets, Philippe. Mmh. Et tu vas nous expliquer bah, l'historique de ces big bands. Comment c'est arrivé? Comment ça a commencé?
Alors, c'est arrivé, effectivement, dans les années 1930, et il y a vraiment un nom qui se dégage de cette création, c'est le nom de Fletcher Anderson, qui était pianiste, arrangeur et compositeur. Bien évidemment, la musique, il l'a appris, pardonnez-moi du mot, il n'est pas très joli, mais sur le tas, comme on peut... On peut l'imaginer. À cette époque-là, il n'y avait pas d'université où on apprenait l'harmonie, la composition et autres. Son orchestre, donc là, on est, pour donner quand même un petit point de repère, c'est un musicien qui est né en 1897, donc ça ne rajeunit pas, qui est décédé en 1952. Et sa marque de fabrique, c'était, en fin de compte, il a pris la musique Nouvelle-Orléans et il l'a adaptée au Big Band. Donc on retrouvait dans le Big Band les instruments classiques de la Nouvelle-Orléans, deux trompettes, un cornet, deux trombones, une clarinette, un sax alto, un ténor, un piano, une guitare, un tuba, une batterie et parfois donc un banjo aussi. Et donc je vous propose d'écouter un morceau enregistré en 1931 qui s'appelle Sugarfoot Stomp, autrement dit pied de sucre. Thank you.
C'était Fletcher Anderson. Alors, Philippe, continuons avec ces big bands. Quelle était leur véritable utilité au début ?
Alors, véritable utilité, jusque dans les années à peu près 1960, c'est pour ça que j'ai choisi cette année charnière pour séparer les missions en deux. Jusque dans les années 1960, c'était vraiment consacré à la danse. C'est-à-dire qu'ils animaient des soirées.
Ah oui, et on venait, et on dansait.
On ne s'asseyait pas pour écouter la musique, on venait et on dansait. Et là, forcément, c'était incontournable. Je vous propose un deuxième extrait. Et lui, il est incontournable parce qu'il a fait les beaux jours d'un club célèbre à Harlem, qui s'appelle le Cotton Club, pardon, 142e rue. Célèbre, plus que célèbre même d'ailleurs. Donc c'est Cab Calloway, bien évidemment. J'ai essayé de ne pas mettre le morceau que tout le monde connaît, donc j'en ai choisi un autre. Et là, on quitte déjà le côté Nouvelle-Orléans dans la structure de l'orchestre, parce que là apparaît maintenant une structure qui va rester très longtemps, c'est-à-dire 5 sax, 4 trombones, 4 trompettes et la rythmique derrière. Donc je vous propose ce morceau donc de Cab Calloway qui s'appelle, parce que je ne le retrouve pas sur ma fiche, mais mon...
Jumping Jive.
Voilà, Jumping Jive.
Il suffit de demander.
Eh oui, je sais bien.
Eh bien, c'est parti.
Have a ball. The jim jam jump if the jumping jive makes you dig your jive on the mellow side. Hip hip. Hip hip. The jim jam jump is a silent jive. Makes you 9 foot tall when you're 4 foot five. Hip hip. Hip hip. Now don't you be that ickaroo. Get hip, come on, and then you follow boo. You get your study full. You make up the jolly jump like the gators do. Jim, jim, jump is a jumping jive. Makes you like your eggs on the Jersey side. Hip, hip. Hip, hip. The jim, jim, jumping jive makes you a hep, hep on the Mahala side. Jim, boodily, 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 biddily, bumpity, goodily, giddily, bang, 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 tang, da, da. Now I've told you about the jumping jive. Jim, jam, jump, the jumping jive. You got to dig this mellow jive. Yes, yes, you dig it on the Mahala side. A boodily, 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 boy. We'll be right back.
C'est sympa les claquettes, hein, ça donne envie de danser. Hein,
je voulais s'imaginer l'ambiance au Cotton Club dans les années 1940, puisque cet enregistrement date de 1940.
D'accord.
Et je ne l'ai pas mentionné tout à l'heure, mais c'est évident, on est vraiment passé de la période de Big Band Nouvelle-Orléans, on va le dire comme ça, à la période swing. Là, on est rentré en plein dans la période swing.
On comprend bien ce qu'étaient les années folles.
Oui, c'est ça. Et là, effectivement, donc, tout le monde danse, tout le monde est heureux, même si la période n'était pas forcément extraordinaire à ce moment-là.
Bon. Alors, on va continuer avec un batteur autodidacte, il me semble.
Oui, alors on va continuer avec un batteur, Chick Webb. C'est à noter aussi qu'au niveau des big bands, ils ont souvent été menés, les big bands, soit par des pianistes, alors pas que, bien évidemment, mais souvent par des pianistes, mais aussi par des batteurs. On s'en apercevra peut-être dans la deuxième partie avec d'autres orchestres. Donc là aussi, batteur autodidacte, il apprend, encore une fois, pardonnez-moi, le mot n'est pas joli, sur le tas, puisqu'il commence sa carrière quand même à 11 ans. C'est quand même assez précoce. Donc à 11 ans, il est déjà dans les clubs de jazz sur New York. Et il va faire les beaux jours d'un autre club célèbre à New York qui s'appelle le Savoy. Donc lui aussi. Et qui va voir débuter une énorme chanteuse. On parlait des chanteurs tout à l'heure et des chanteuses, mais une énorme chanteuse. Enfin énorme, dans le sens, bien évidemment, de la qualité musicale, Ella Fitzgerald. Et là, je vous propose donc d'écouter un morceau qui s'appelle Go Harlem, hein, de 1936. Donc Chick Webb et son grand orchestre.
Eh bien, c'était Go Harlem de Chick Webb and his orchestra. Alors, bien sûr, tous ces big bands ont permis de révéler des musiciens qui sont devenus très célèbres, comme Duke Ellington, par exemple. Et puis d'autres qui ont commencé ensemble, puis après ont volé leurs propres ailes, comme tu disais, par exemple, avec Ella Fitzgerald.
Ella Fitzgerald. Et puis, il faudrait forcément citer tous les noms de l'orchestre, mais là, il faudrait qu'on fasse une émission spécifiquement sur un orchestre, parce que tous...
Ils sont très nombreux,
oui. Oui, et de plus, c'était quand même assez spécifique parce que les musiciens restaient longtemps dans les orchestres. J'expliquerai le pourquoi du comment. Donc, ça donnait forcément une couleur très importante à l'orchestre. Ils ont travaillé ensemble pendant des décennies, tous ces musiciens-là.
Oui, restant, ça veut dire très peu de mouvement. Ils ne partaient pas dans leur côté.
Ils avaient une carrière solo souvent à côté, mais ils étaient membres permanents souvent de l'orchestre. Il y avait très peu de turnover dans les orchestres de ces époques-là. Donc là, forcément, on va arriver sur Duke Ellington parce que c'est bien évidemment incontournable. Duke Ellington, son vrai nom, Edward Kennedy Ellington. Son surnom Duke vient en fin de compte de son élégance naturelle qui avait été détectée par ses camarades dès le collège. Et c'est un surnom qui lui est resté, Duke Ellington, ça c'est pour la petite histoire. Ensuite, après, pour parler de Duke Ellington, il nous faudrait là aussi une émission entière, parce que c'est tellement énorme ce que ce musicien a amené à la musique afro-américaine. Alors, plutôt que d'en parler pendant des heures, je vous propose d'écouter un instrument mythique. On va situer, il y a une légère brise, la mer est derrière. Nous sommes dans la Pinède d'Antibes, jouant les pins. Je ne sais pas si vous entendez les grillons, les cigales encore. Nous sommes le 29 juillet 1966 et va se présenter sur la scène le grand orchestre de Duke Ellington qui va accompagner Ella Fitzgerald sur un morceau mythique qui s'appelle My Exotic Knife. Écoutez bien, c'est absolument exceptionnel.
Oh, the shark has pearly teeth, and he shows them pearly white. Just a jackknife has my key, dear, and he keeps it out of sight. When the shark bites with his teeth, dear, scar the billow.
Calade.
Quelle puissance incroyable qu'elle dégage. Là.
C'est un enregistrement mythique.
Alors, il y a de la voix là. Ouais.
L'enregistrement existe dans son entier, je vous encourage. Il est disponible, il est toujours disponible à la vente, comme on dit. Je vous encourage à écouter ça, parce que tout est de cette qualité et de cette intensité.
Alors, nous continuons notre émission consacrée ce soir au Big Band, Philippe. Oui. Et alors là, nous passons à un autre grand moment avec...
Un autre grand moment. Alors, ça, on va dire que vous allez... On va en avoir deux pour le prix d'un. Ah. Je voulais vous parler de Count Basie. On ne peut pas parler de période swing sans parler de Count Basie, des Big Band. Alors, Count Basie, lui aussi, ce n'est pas son vrai nom. Son vrai nom, c'est William. Mais comme il y avait Duke Ellington... Et comme lui aussi, il avait une certaine élégance, on l'appelait Count, le Count Basie. Donc Duke Ellington, Count Basie. Voilà, et parfois, ça tient un peu de choses. Et là, je vous propose là aussi un enregistrement mythique, bien évidemment. Nous sommes en 1961. Les deux orchestres sont réunis pour un show sur un enregistrement donc, qui s'appelle First Time. Écoutez bien, parce que Basie est à droite, Ellington est à gauche au piano, normalement. Pour la petite histoire, sachez tout de même que cet orchestre a été reconstitué pour un jazz festival à Vienne en 2011 avec Michel Plastre et Laurent Mignard qui ont refait ce disque. Count Basie, j'ai le temps de vous raconter une toute petite anecdote.
Très vite.
D'accord. Lorsque j'ai commencé la musique, j'avais 16-17 ans et mon premier professeur de musique, mais j'en ai déjà parlé à cette antenne, était un musicien noir américain qui s'appelait Arthur Brinks. Et un soir, avec un ami, on lui dit, voilà, on va écouter au Palais des Sports Count Basie. Il nous dit, mais attendez, alors son franco-anglo, tout ce que vous voulez, attendez, je vais vous faire un petit mot. On avait 17-18 ans, il nous a fait un petit mot. On est arrivé au Palais des Sports, on a écouté des concerts qu'on ne fait plus aujourd'hui, puisque la première partie, c'était Count Basie, au milieu, c'était Oscar Peterson, et à la fin, c'était Ray Charles.
Ouf.
Et donc, à la fin du concert, avec nos 17 ans, on s'est dit, bon, on y va. Donc, on a essayé de franchir Et on est arrivé jusqu'à Count Basie. On lui a présenté notre petit mot. Ça l'a fait sourire. Il nous a serré la main. Mais je peux dire au moins que j'aurais serré une fois dans ma vie la main de Count Basie. Donc, je vous propose maintenant d'écouter First Time. Les deux orchestres ensemble, écoutez bien. C'est absolument exceptionnel. Thank you.
c'était First Time de Count Basie.
Oui, le morceau Second C, donc suivez-moi en C, enfin en Do, pardon.
En Do,
oui. Oui, magnifique.
Donc c'est là où on vient plutôt s'asseoir.
Bah c'est, oui, à partir de ce moment-là, les big bands sont plutôt, enfin, commencent à rentrer dans les salles de concert.
Voilà, on trouve donc que c'est un petit peu moins entraînant pour aller danser.
Voilà, donc voilà. Là on vient...
Mais c'est quand même magnifique.
Ah oui, ça c'est exceptionnel.
Il y a une particularité, pourquoi le Suivez-moi en Do?
Ah non, là je... Non, simplement parce que le morceau est dans Do, quoi.
Oui, c'est tout, tout simplement. Oui, mais à mon avis, il y a peut-être une histoire là-dessus.
Non, non, c'est parce que le morceau est en Do.
Alors, malheureusement, on ne peut pas ne pas évoquer les problèmes raciaux de cette époque.
Oui, tout à fait. Donc, on peut pas passer au travers. Et j'ai voulu mettre en exergue ce qu'on pourrait appeler... j'essaie de pas faire de trop de fautes de ce côté-là, mais des big bands plutôt dédiés à un auditoire blanc.
Ah oui, oui.
Alors que tout ce qu'on vient d'entendre ce soir, c'est plutôt un auditoire afro-américain. Donc on va pas rentrer plus dans les détails. Mais forcément, les orchestres qui symbolisent le plus cette musique, entre guillemets, de blanche, qui était jouée souvent dans les grands hôtels, souvent à la radio également... Son représentant le plus connu, c'est forcément Glenn Miller, bien évidemment, mais il y a eu aussi Benny Goodman. Et vous allez voir la différence d'écriture au niveau de la musique. Donc là, je vous propose Glenn Miller, c'est pareil, c'était un musicien plus ou moins autodidacte aussi, lui. Hein. Il était un tromboniste. Et puis Glenn Miller a une fin tragique aussi, quand même, parce qu'il était très employé dans l'armée américaine pendant la Seconde Guerre mondiale. Et malheureusement, son avion s'est écrasé alors qu'il venait organiser un concert en France dans les années... en 1940, je crois. C'est 43, je ne sais plus. Là, ma mémoire me fait défaut. Mais donc, le morceau que je vous propose, I Know Why, c'est tiré d'un instrument qui s'appelle Sun Valley Serlan. Mais écoutez bien, vraiment, la différence de ton, enfin de tout, entre ces deux... Oui, non, vraiment, vous allez voir, c'est flagrant.
Eh bien, on écoute.
gypsy violins. When you dance with me, I'm in heaven when the music
see the sun when it's raining, hiding every cloud from my view.
Voilà, c'était I Know Why avec Glenn Miller au trombone. Et ensuite, Philippe, nous enchaînons avec...
Alors maintenant, on va enchaîner donc avec peut-être le musicien le plus blanc afro-américain, qui s'appelle Woody Herman, qui est un clarinettiste. Qui a monté un big band et qui a vraiment fait là, le pont entre l'ancienne génération swing et ce que vont devenir les big bands et ce qu'on verra dans la seconde émission, à savoir quand même que beaucoup de ces grands musiciens sont sortis de cet orchestre, entre autres Stan Getz, Zoot Zimmes, Jimmy Giuffre. Là, je vous propose d'écouter Woody's Boogaloo, enregistré au Jazz Festival de Montréal en 1967. Vous allez voir, ça déménage, mais alors là, vraiment, on n'est plus du tout dans la danse, on s'assoit et on écoute.
Ok. Thank you. Baisse. C'était Woody's Boogaloo de Woody Herman. Et nous allons terminer, Philippe, avec qui?
Avec Dizzy Gillespie, parce que bien évidemment, les boppers se sont intéressés à un moment donné au big band. On avait eu l'occasion d'écouter notre ami Thelonious Monk. Et là, Dizzy Gillespie. Mais avant de vous faire écouter Dizzy Gillespie, je voudrais juste revenir quelques secondes simplement sur... déjà, ce qu'on vient d'entendre. On sent très très bien qu'on est en train de sortir de la période swing. On va aller vers autre chose, une autre forme d'écriture. Donc, on verra dans la deuxième émission. Maintenant, restons quand même quelques secondes sur la composition des orchestres à cette époque-là, de l'orchestre swing. Alors, pourquoi 5 saxophones? Pourquoi 4 trombones? Pourquoi 4 trompettes, hein? On pourrait se poser la question.
C'est parce que, la question.
Oui, pourquoi?
Parce que, Je vous remercie de la poser.
Pourquoi,
parce
Philippe
que, parce qu'effectivement, on pourrait se dire, en fin de compte, ils jouent tous la même chose. Eh bien, figurez-vous que non.
Ah.
Ils jouent pas tous la même chose. Et non, le saxophone alto, le numéro 1, le leader, en vérité, quelque part, c'est un peu lui le leader de l'orchestre. Donc, il joue la mélodie, il est soutenu par l'alto numéro 2. C'est un peu la même histoire sur le ténor, ténor 1, ténor 2. Et le baryton, lui, il est là, bien évidemment, pour soutenir au niveau du bas. Ensuite, après, au milieu, vous avez les trombones, qui, eux, vont faire un peu la jonction entre la partie médium, qui est jouée par les sax, et la partie très haute derrière eux, qui est jouée par les trompettes. Alors, eux aussi ne sont pas forcément unissons. Parfois, ils se répondent. Enfin, c'est toute une alchimie. Et enfin, tout en haut, vous avez les trompettes qui, eux aussi, jouent une partie de la mélodie, mais surtout donnent des grands coups d'orchestre, puisqu'effectivement, ils ont un instrument qui est placé haut. Là, vraiment, croyez-moi, j'ai fait très, très, très simple. C'est bien plus, non pas compliqué, mais bien plus pointu que ça. Mais sinon, là aussi, il nous faudrait beaucoup de temps. Et bien évidemment, entre tout ce petit monde, eh bien, il y a des chorus de sax, de trompettes, de trombones, de piano, parce que derrière, bien évidemment, il y a la section rythmique. Voilà. J'en ai fini, on pourrait faire
bravo.
Plus large. Bon. Alors, bien évidemment, si je suis désolé parce qu'il a bien fallu faire des choix, j'ai volontairement enlevé d'autres grands orchestres, Marty Page, Quincy Jones, Henry Mancini, Ian Anton, Lalo Schifrin, tous ces gens-là, bien évidemment, ont participé à la grande aventure de l'époque swing.
Surtout le grand compositeur de musique de film,
Lalo Schifrin et Mancini. Qui, avant de faire toutes les musiques des films qu'on connaît, est passé par la période swing, lui aussi, et aussi beaucoup afro-cubaine. Donc Dizzy Gillespie, on va finir avec notre ami Dizzy. Là aussi, j'aurai une petite histoire à vous raconter, mais je ne vous la raconte pas, je sens qu'on n'a pas le temps. Je vous la raconterai une autre fois. Donc, un concert enregistré en Californie en 1948, à Pasadena. Le morceau s'appelle Imanon, et là vous allez voir que là, définitivement, on danse plus, on s'assoit et on écoute.
I proudly present in concert Dizzy Gillespie and his great orchestra. We'll be right back.
C'était Imanon de Dizzy Gillespie. Et bah voilà, nous allons nous arrêter là ce soir. Mais la prochaine fois, nous continuerons tout de suite.
Oui, on va redémarrer avec George Russell, qui fait partie de ces musiciens, une génération qui a commencé à aller, entre guillemets, pardonnez-moi, à l'école, pour apprendre à la fois l'harmonie, la composition et autres. Et là, effectivement, à partir des années 1960, ces musiciens arrivant presque à maturité, musicalement, je parle, à partir de ce moment-là, vous verrez que au niveau de travail d'orchestre, les choses vont changer de 1960 jusqu'à nos jours.
Tu nous as coupé le rythme, là, Philippe, parce que tu as les deux derniers morceaux, là, c'est vraiment très rythmé. Là,
ouais, enfin, bebop, moi, j'adore quand même. Ouais. Bebop, ouais. Arrangement bebop, très, très péchu, des mises en place incroyables. Enfin, voilà. Donc, les big bands, première partie, deuxième partie, on ira peut-être un petit peu plus dans le détail encore. Je range mes documents.
Merci Philippe.
Je vous dis à bientôt. Merci
alors, Philippe. Quelques mots rapidement pour nos prochains concerts du Chien Trois Pattes. Donc on va vous tenir au courant. En principe, on devrait essayer de continuer au mois de mars. Donc on vous tiendra bien vite au courant à la prochaine émission. Voilà, donc eh bien, chères auditrices et chers auditeurs, je vous remercie pour votre écoute. Je remercie Dédé aux manettes. Merci Philippe pour tes brillantes explications.
Merci à vous.
Merci Christophe de ta présence.
Merci à vous.
Et bien, on va se quitter.
Et bien, bonsoir tout le monde.
À bientôt. Au revoir.
À bientôt. Au revoir.
Opportunity to seize everything you ever wanted in one moment. Did you capture it or just let it slip?
Yo,
his palms are sweaty, knees weak, arms are heavy. There's vomit on his sweater already. Mom's spaghetti, he's nervous, but on the surface, he looks calm and ready to drop bombs. But he keeps on forgetting what he wrote down. The whole crowd goes so loud, he opens his mouth, but the words won't come out. He's choking how? Everybody's choking now. The clock's run out, time's up, over, blow. Snap back to reality, oh, there goes gravity. Oh, there goes rabbity choke. He's so mad, but he won't give up. That is, he know he won't have it, he knows. His whole back's at his ropes, it don't matter, he's dope. He knows that, but he's broke. He's so stagnant, he knows when he goes back to this mobile home. When it's back to the lab again, yo, this old rhapsody better go capture this moment and hope it don't